Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission produite en marge du Café des Presses organisé le mardi 2 mai 2017 à Bukavu par l'Association des femmes de médias en partenariat avec Internews. Dans cette émission, nous vous proposons l'intégralité du Café des Presses, entrecoupée par des interventions des participants autour du thème « La participation de la femme au processus décisionnel public ». L'activité a regroupé au bureau de l'Internews à Bukavu les professionnels de médias, organisations de la société civile, autorités provinciales et d'autres acteurs étatiques et para-étatiques avec un panel de 5 personnes. Je suis Élisée Mouzalia, assistant au programme et information à AFM. Le reste du débat est modéré par la chargée des programmes à AFM, Dousna Mouizi. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'Association des femmes de médias vous remercie tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation. Mais c'est un honneur pour nous de voir que vous avez accepté de participer à ce café de presse qui est organisé grâce au partenariat avec Internews. Et pour commencer notre café de presse d'aujourd'hui, nous avons un programme que vous avez également. Je vais tout d'abord commencer par présenter les participants que vous êtes. Avant cela, on va bien sûr chanter l'hymne national. Par la suite, il y a Monsieur Patient d'Internews qui va nous présenter les objectifs du projet et dans lequel s'inscrit cette activité de café de presse. Par la suite, nous allons passer à quelques présentations très brèves, mais qui seront introduites par des questions. Donc, tel que vous voyez sur le programme, ça ne sera pas des longs exposés, mais ça sera vraiment interactif et je vais demander votre participation également puisque c'est vos questions qui vont aider nos différentes panélistes à avancer. On a prévu également quelques éléments sonores, une interview portrait également de Vox Pop que nous allons suivre pendant ce café de presse. Et avant de commencer, je vais nous demander de nous lever pour chanter l'hymne national puisqu'on est quand même sur le sol congolais.
Debout Congolais, unis par le sport, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.
Sans plus tarder, je dois dire que nous sommes ici dans ce café de presse qui rassemble des professionnels de médias, de journalistes de différentes radios, télévisions, ainsi que de la presse écrite du Sud Kivu. Nous sommes également avec les acteurs de la société civile, également les acteurs de partis politiques, puisque les thèmes qui nous rassemblent parlent de la participation des femmes dans le processus décisionnel et parmi les facteurs ou les vecteurs, il y a également cette participation politique et il y a bien sûr également cette participation en tant qu'acteur de la société civile. Nous sommes également avec les différents responsables de médias de la place. Nous sommes avec les partenaires de Internews. Nous sommes également avec les visiteurs du département d'État américain. Nous sommes également avec nos panélistes que j'ai l'honneur de présenter en commençant par ma droite. Nous sommes avec Madame Solange Luachiga. Elle est présidente du caucus des femmes congolaises pour la paix et porte-parole nationale du mouvement Rien sans les femmes. Nous sommes à sa droite avec Dr Justine Namvura. Elle est conseillère du ministre du genre en province du Sud Kivu. Nous sommes avec Madame José Emina. Elle est présidente fédérale d'un parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès UDPS, ici au Sud Kivu. À côté de Madame José, nous sommes avec Madame Solange Lusiku. Elle est éditrice du journal Le Souverain Libre. Et à la fin, nous sommes avec Madame Espérance Mawanzo de l'Observatoire de la Parité. C'est une organisation de la société civile. Et avant de commencer, nous allons appeler Monsieur Patient de Internews très brièvement de nous circonscrire les objectifs de cette activité et pourquoi nous sommes là.
Merci infiniment. Je vais d'abord dire merci à tous ceux-là, vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour cette activité. Merci d'avoir répondu à cette invitation d'Internews, non seulement d'Internews, mais d'AFEM. C'est une opportunité pour nous de remercier tous ceux-là qui ont concouru à la réalisation de cette activité, spécialement à AFEM, représenté par Douce, mais aussi au bureau Internews ici. Alors, le projet s'appelle Congo News, mais c'est le projet qui vous propose des contenus que vous avez souvent sur la radio Mama Radio et également sur Radio Mandeleo qu'on appelle Vox Congo, qui vous permet d'avoir en fait de l'information produite à partir de Kinshasa, mais aussi à partir de trois autres provinces de la RDC. J'ai cité la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, mais aussi la province du Haut Katanga. Le projet Vox Congo donne la voix à ce que nous appelons les voix, donne la parole à ce que nous appelons les voix modérées. C'est-à-dire, dans un contexte qui est le nôtre, un contexte politique assez difficile, un contexte préélectoral, généralement c'est des extrémistes qui prennent la parole, généralement c'est des gens un peu plus brutaux qui prennent la parole, et ce projet essaie de donner la voix, la parole aux personnes qui parfois sont mis de côté. Et dans ces cadres, c'est comme ça que nous avons choisi aujourd'hui ce thème, la participation des femmes au processus décisionnel public. C'est pas seulement les voix modérées, c'est pas seulement les femmes, mais les femmes comptent également énormément. Quand on regarde les productions, surtout ceux qui sont dans les médias savent nos productions, très rarement nous accordons la parole aux femmes, très rarement nous accordons la parole aux politiciennes, très rarement nous accordons la parole aux expertes. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent justement sur la participation des femmes au processus décisionnel. Le projet Vox Congo, c'est un projet qui va jusqu'au mois de juillet et à travers lesquels nous allons continuer à organiser ces types d'activités, les cafés presse, mais aussi la production de ces bulletins d'information qu'on appelle Vox Congo, qui est diffusé sur 10 radios à travers le pays. Ici, 2 radios, à Kinshasa, 2 radios, à Goma, nous avons 3 radios, et à Lubumbashi, nous avons également 3 radios. Ainsi, circonscrit, nous souhaitons vraiment des fructueux échanges dans ces cadres, en espérant que des belles recommandations sortiront de ces échanges pour le bien-être de notre démocratie, mais aussi pour une meilleure participation des femmes au processus décisionnel public. Merci à vous.
Merci beaucoup, Patient. Sans plus tarder, nous allons poser une question à Madame Espérance Mawanzo. Une question qui va nous faire entrer dans le vif de notre sujet, de notre thème d'aujourd'hui. Madame Espérance, quel est l'état des lieux de la participation des femmes dans les instances décisionnelles, surtout dans les secteurs politiques, ici au Sud Kivu?
Si je vois le tableau qui est devant moi ici, nous avons, au niveau du gouvernorat par exemple, nous avons un seul gouverneur qui est un homme, vice-gouverneur, un homme. Au niveau des ministres, 10 ministres, dont 4 sont des femmes. Au niveau des députés, sur les 36, il y a seulement 3 femmes députés provinciales. Alors si je vois aussi dans les secteurs services administratifs, donc au niveau des services de l'État, sur le total de 61, il y a seulement 7 qui sont des femmes. Et au niveau des cabinets, là, on parle au niveau de l'Assemblée provinciale. Au total de 17, il y a seulement 15 hommes et 2 femmes. Au niveau des personnels d'appoint, là on est toujours au niveau de l'Assemblée provinciale, total de 52, il y a seulement 12 qui sont des femmes. Et alors, si on voit maintenant au niveau des cabinets, parce qu'il y a les ministres, il y a aussi les personnels qui accompagnent les ministres, Dans chaque ministère, il est prévu de 12 personnes comme conseillers et qui accompagnent les ministres. Alors, sur les 10 ministères, donc le total de 120 personnes qui travaillent au sein des ministères, il y a seulement 31 femmes. Nous avons ici représenté aussi par le ministère du genre qui est là, mais dans leur ministère, il y a 2 femmes. Nous, lorsque nous avons fait l'étude l'année passée, il y avait 3, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 2. Peut-être que madame Justine pourra corriger. Et au niveau des territoires, les 8 territoires sont dirigés par des hommes. Les adjoints au niveau administratif ou bien finance, dans tous les 8 territoires, il y avait 3 femmes avant, mais au jour d'aujourd'hui, ça reste seulement 2 femmes adjointes au niveau des territoires ici. Alors donc, je peux aussi passer pour dire un peu comme dernièrement, c'était prévu les élections provinciales, il y avait des candidatures pour les élections provinciales qu'on attend. Et au total, pour la province du Sud-Kivu, dans l'ensemble, il y avait 1141 candidatures donc déposées. Et sur les 1141, là, il y avait seulement 133 femmes qui étaient comme candidates, donc 10% des femmes. Donc dans l'ensemble, la situation sur où sont les femmes, ça ne dépasse pas 10%. Dans l'ensemble, un peu ça, c'est ça douce.
Merci bien, Madame Espérance. Madame Solange Loachiga, est-ce que vous pouvez nous faire la même analyse, un peu plus qualitative également, puisqu'il y a les chiffres qui sont là, mais comment on peut analyser ces chiffres-là, ces 10% de femmes, qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Merci Douce, merci à Internews. Si j'essaie de voir le processus, et là je vais me situer sur le plan mobilisation, parce qu'on ne peut pas avoir les 10% sans qu'il n'y ait pas de travail qui a été fait. Et donc, je prends comme repère 2006, là où les femmes, les organisations des femmes se sont mobilisées pour amener les femmes à participer dans le processus de démocratie. Et là, on a des femmes qui ont compris qu'il faut voter pour les hommes et les femmes. Il y a des femmes qui se sont dit, je vais être candidate. D'autres se sont dit, je vais être observatrice, je vais être témoin des élections. Et on va voir qu'en 2006... malgré la mobilisation des femmes pour voter les femmes comme députées, le score a été vraiment trop trop faible. Au niveau du Sud Kivu, une seule femme élue au niveau d'Ouvira, au niveau national. Au niveau provincial, Espérance vient de le dire, nous n'avons que 2 femmes jusque-là qui ont été élues comme députées provinciales, plus la seule femme, Mami Kazi, chef coutumière, qui a été cooptée. Et donc, l'implication des femmes dans le processus de prise de décision au niveau public, c'est que les femmes avaient comme entendement, d'abord, à partir des élections, le contexte sociopolitique et économique a constitué un frein. On a trouvé que la société n'est pas encore prête à intérioriser la femme et le pouvoir, surtout de ce pouvoir public. C'est un problème. Les femmes se sont dit, qu'est-ce que nous faisons? Menons des plaidoyers pour que les femmes soient nommées. Vous avez vu des femmes bourgmestres, des femmes maires de la ville. Mais le contexte dicte les stratégies. 2011, le contexte des élections présidentielles, le président de la République, il faut qu'on le dise, il trouve non, toutes ces femmes ne sont pas de mon parti politique. Ces femmes vont être démises de leurs fonctions. Parce qu'étant d'un parti politique autre que le PPRD. Et les femmes remplacées par les hommes. Vous comprendrez que les postes que les femmes avaient occupés en tant que des femmes qui ont été nommées, on a remplacé les femmes. Et donc, aujourd'hui, le principe, entre guillemets, basé sur les statuts sociaux avec les attributs sociaux, font qu'on réfléchisse qu'un poste donné à une femme, c'est un poste de moins. Alors, moins de 10%, les lois sont là. Qui doit faire respecter les lois? Les politiciens, en commençant par le président de la République, ce qu'il ne fait pas, comme les autres, par exemple au niveau du Rwanda. Bien sûr, les élections, tant que la femme n'a pas encore intériorisé que si les femmes et les hommes participent à la gestion de la chose publique, ça peut changer la donne dans la gouvernance, ça sera un problème. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que pour qu'il y ait des femmes dans les postes décisionnels au niveau public, il faut une mobilisation, il faut un mouvement. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement Rien sans les femmes, qui a pour objectif la participation égalitaire des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision, voudrait conscientiser dès la base la pertinence d'avoir les femmes dans les instances de prise de décision. Merci.
Merci bien, Madame Solange. Je vais demander à nos chers participants d'apprêter deux questions. Vous venez là de suivre cet état des lieux. Je vais prendre juste deux questions. Déjà, commencez à réfléchir. En attendant vos questions, je vais vous inviter à suivre une interview, portrait, que Mama Radio a réalisé avec une femme qui est dans la politique, qui assure un poste de décision. Elle va nous raconter un peu sa vie et de quoi ça a l'air d'être dans la politique. Suivez.
Madame le ministre Agnès Sadiki, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qui est Agnès Sadiki?
Bon, il faut commencer par le commencement. Peut-être je peux être un peu longue, mais aujourd'hui, il faut dire que je suis ministre des Transports, des Communications, de l'Urbanisme et de l'Habitat, mais aussi porte-parole du gouvernement.
Vous êtes né en quelle année, si ce n'est pas un secret?
Oui, je suis né à Chabunda le 23 mars 1972 et j'ai 3 enfants. Donc, vous comprenez que je suis mère de famille.
Vous avez longtemps été journaliste ici dans la province du Sud-Kivu. Directement, vous avez viré à la politique. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, il faut d'abord dire que même en étant journaliste, j'ai milité avec les autres femmes, comme je l'ai dit, dans le mouvement féminin, dans le mouvement associatif avec les différentes femmes. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a préparé à la politique aujourd'hui. Mais aussi, il faut dire que du journalisme à la politique, il n'y a qu'un pas. Parce que si vous regardez bien, dans les filières dans lesquelles on tire pour la plupart des fois des diplomates, des gens qui doivent faire partie, par exemple, des hautes fonctions dans un pays, l'histoire nous le dit. Ce sont des gens qui ont fait des sciences comme la communication, qui ont fait le journalisme, qui ont fait et qui ont fait. Et donc, moi je me dis, je n'ai pas viré.
Justement, oui. Et vous vous sentez mieux en politique qu'en journalisme?
D'habitude, moi, je me sens bien partout. C'est parce que j'ai plus ou moins cette chance-là d'avoir des capacités de pouvoir m'adapter à tout. Je vais vous livrer un secret. Avant même d'aller au journalisme, j'étais religieuse. Et là, je me sentais aussi bien que je me sentais dans le journalisme, mais aussi bien que je me sentais dans le monde associatif, et aussi bien que je me sentais dans le syndicalisme, parce que je suis aussi syndicaliste, et aussi bien je me sens aujourd'hui à l'aise dans la politique. C'est-à-dire, c'est quelque chose, un secret, c'est qu'il faut bien faire son travail qui vous est, donc le travail qui vous est confié maintenant pour que vous vous sentiez bien. Et c'est ça.
Et depuis quand vous œuvrez dans la politique, madame?
Depuis 2013. Quand le gouverneur de province a remanié son deuxième gouvernement, et j'étais d'abord secrétaire exécutif adjointe du gouvernement provincial, et après je peux dire aujourd'hui comme ministre, c'est peut-être une promotion.
Votre lutte a quel impact sur votre vie en tant que femme, au sein de votre famille également, dans la société en général?
Moi je crois d'abord ça m'a ouvert à de nouveaux horizons, ça a élargi mes relations. Moi je me dis aujourd'hui avec la vie politique, pour dire diplomatique, ça me réouvre de nouveau à des relations qui pourront peut-être aider les autres femmes congolaises surtout, et du Sud Kivu en particulier, à aller de l'avant.
Et comment est-ce que votre parti politique vous accompagne, vous appuie dans votre lutte?
Moi, je crois que je suis soutenue par mon parti qui est le PPRD. Pour autant que ces partis-là, d'abord, à moins qu'ils me flattent, mais ils me disent qu'il y a quand même certaines capacités qu'ils trouvent en moi et qui me font mériter certains postes. C'est parce qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas encore officialisé, mais c'est moi qui gère la Ligue des femmes au sein du PPRD au niveau de la province du Sud Kivu. C'est-à-dire que le parti a compris que dans la femme, il y a quelque chose qui peut aider les pays à décoller, qui peut aider la province à décoller, qui peut beaucoup plus apporter un changement dans la société.
Et en tant que femme, comment est-ce que vous vous comportez face à toutes les charges qui pèsent sur vos épaules, les responsabilités de la famille, comment vous les gérez?
Si les hommes sont capables de les surmonter, je crois qu'il y a aussi les femmes, certaines femmes qui soient capables de les faire. Chaque vie, chaque travail, chaque profession a des défis et a des avantages, s'il faut les dire. Bien sûr, comme femme, comme mère de famille, telle que je vous ai dit, il y a des contraintes familiales qui sont là. Parce que je dois, avant de quitter, peut-être le mari qui va me demander non, où est la paire de chaussettes, où est cela, où est cela. Je dois avoir un programme tracé à la veille. C'est comme ça que moi je m'organise. Je revois plus ou moins ce que le papa va porter le matin, parce qu'on est femme politique, ministre aujourd'hui que je suis, mais il faut aussi dire que tu es attachée à quelqu'un, à un mari, ou encore aux enfants et aux membres de la famille. C'est compliqué, bien sûr, mais moi je me dis que ce n'est pas très compliqué si on fait bien son programme.
Pour terminer, dernière question, quelles sont vos ambitions aujourd'hui?
Oui, mes ambitions aujourd'hui, c'est devenir parlementaire demain. Devenir parlementaire demain, je suis ministre, c'est-à-dire je participe à la gestion de la chose publique. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent pour vraiment gérer politiquement la chose. Mais je crois beaucoup plus quand on est parlementaire, on porte les doléances du peuple. On est là pour parler au nom d'eux. Et vous avez un mandat légal.
Merci beaucoup, Madame Agnès Sadiki. Je rappelle que vous êtes ministre provincial des Transports et voire des Communications, de l'Urbanisme, de l'Habitat et porte-parole du gouvernement provincial. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup.
C'était là juste une interview portrait de Madame Agnès Sadiki que presque nous tous ici connaissons, mais peut-être très peu savaient qu'elle devait également préparer les chaussettes du mari à la veille et assurer les deux. Voilà, deux questions.
Aujourd'hui, on fait parler de la participation des femmes au processus des prises de décision. Je ne sais pas de quelle femme s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de la femme urbaine ou bien de la femme rurale? Parce que nous savons que dans le contexte qui est nôtre, il y a cette pesanteur culturelle qui a fait que la femme dans les milieux ruraux, elle n'a pas été instruite pour qu'elle arrive à prendre aussi les décisions. Il y a aussi ces problèmes-là même dans les ménages, dans les couples, la femme n'a pas même cette décision. Comment vous envisagez cette participation de la femme dans les instances de prise de décision? Merci.
Merci beaucoup, confrère. On commence par le devant.
Alain Magourou, c'est mon nom. Je dirige la rédaction de Dream Magazine et j'appartiens à l'organisation BNT Vision. Je serai bref. Est-ce que vous ne pensez pas, chère dame, que la géopolitique a son rôle dans cette sous-représentativité lorsque elle est caractérisée par la misogynie? Mais aussi, je pense que il est question de la dispersion de l'élite féminine, de la lutte de positionnement. Là, je me réfère à ce que je peux appeler, je m'excuse beaucoup, échec de la troisième action globale de la marche mondiale des femmes. Les femmes ont passé du temps à se tirer dessus. Les femmes dites politiques ont crié à l'exclusion. Et les femmes dites de la société civile ont crié à la récupération. Mais aussi, je pense que c'est une question de manque de volonté. Vous allez me contredire ou m'appuyer. Ce sont là mes préoccupations. Là, je donne deux petits exemples. Pour l'action genre élection n'existe plus, presque, parce que c'est ça qui devrait aider les femmes à gérer leurs ambitions. Et à un moment, le poste de vice-gouverneur était vacant. Une femme avait rempli tous les profils nécessaires pour remplacer M. Jean-Claude Kibala qui était parti. Je vais parler de Mme Aurélie Bitondo. Et cette femme là-bas n'a pas réussi, n'a pas bénéficié du soutien de toutes les femmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ce manque de réalisme? Merci.
Merci bien, chers confrères, pour vos questions. La question du confrère Dipache va nous amener à donner la parole à Madame José Emina. On va renverser un peu le programme. Ce confrère, il se demande, qui est cette femme-là dans la politique? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience, puisque vous êtes dans la politique, vous êtes dans un parti politique de l'opposition? Comment vous parvenez à jongler avec tout ça?
Quant à ce qui concerne les différentes questions qui viennent d'être posées, s'il s'agit de la femme urbaine ou de la femme rurale, je pense que quand on parle de la femme, il ne s'agit pas seulement de la femme urbaine ou de la femme rurale. Les problèmes qui touchent les femmes, ça concerne toutes les femmes sans exception. Quand on parle de la femme, il n'y a pas une femme qui est à 200 ou 300 kilomètres de la ville de Bukavu ou celle qui vit dans la ville de Bukavu. La non-représentation de femmes dans le parti politique, c'est pas seulement un problème qui touche les femmes qui restent en ville. C'est un problème qui nous concerne tous. Parce que quand il y a cette sous-représentation, ce ne sont pas seulement les femmes restant en ville qui vont en pâtir. Ou les femmes qui sont dans des villages lointains qui vont aussi en pâtir. C'est toutes les femmes. Parce que quand il n'y a pas une femme, il n'y a pas une représentation significative de la femme au poste décisionnel, je vous assure que toutes les décisions qui seront prises, les femmes, et si les femmes sont oubliées, ce sont toutes les femmes qui sont oubliées. Et donc, quand on parle de femmes, je n'ai jamais fait de discrimination. C'est toutes les femmes qui sont concernées. Seulement, ce qui nous manque, c'est quoi? La femme qui vit à 800 kilomètres de la ville de Bukavu n'a pas la même information que la femme qui vit à Bukavu. Surtout avec nos coutumes rétrogrades. Nous savons comment est-ce que la femme est considérée par nos coutumes. Nous sommes toujours matraqués par nos coutumes, nous sommes toujours bloqués et cela ne favorise pas la femme à aller de l'avant, surtout en politique. Surtout qu'on s'est fait des images, des idées erronées quant à ce qui concerne la femme politique. Moi personnellement, je suis une femme politique. Je suis une femme qui a vraiment des grandes ambitions politiques, mais je suis aussi une femme de ménage. Le fait pour moi d'être femme politique n'exclut pas ou ne fait pas à ce que je puisse oublier mes devoirs en tant que femme de ménage. Je suis une femme mariée, j'ai un mari, j'ai des enfants, mais j'ai tout le temps de m'occuper de mon mari et de mes enfants, et aussi tout le temps de m'occuper de ma politique, parce que je trouve que c'est important que je participe dans la politique de mon pays, parce que avec la femme, on peut espérer, parce que nous avons vu que beaucoup d'hommes ont échoué, là que certaines femmes peuvent réussir. C'est ainsi qu'on ne doit pas baisser les bras et dire qu'il y a les femmes au niveau rural, les femmes urbaines. On a parlé aussi de la géopolitique. Oui, c'est bien. Je pense que quand on parle de la géopolitique, il y a les femmes des différentes origines dans les différents partis politiques. S'il faut parler de la géopolitique, s'il faut la promotion d'un politicien, mais il faut tenir compte de cette géopolitique tout en faisant allusion aussi au genre. Il y a les femmes qui sont là, si on veut une femme de Walungu, un homme de Walungu, il y a aussi des femmes de Walungu plus capables que certains hommes. Donc ces questions, c'est seulement question, on veut bloquer la femme, que la femme ne puisse pas aller de l'avant. On considère une femme qui fait la politique comme une femme de mœurs légères. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand on a choisi la politique, c'est comme si on aurait choisi de faire le commerce. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des femmes commerçantes qui quittent les maisons à 5 heures du matin pour aller de l'autre côté de la frontière, pour aller chercher les marchandises. Et elles reviennent peut-être vers 19, vers 20 heures. Ce n'est pas seulement la femme politique qui revient à la maison un peu tard, et même les femmes commerçantes. Mais pourquoi est-ce qu'on doit bloquer la femme à ne pas évoluer dans la vie politique? Ce sont ces idées erronées-là que nous devons balayer dans le chef, surtout de nos leaders communautaires qui veulent vraiment matraquer la femme à ne pas aller de l'avant dans la vie politique. Parce que moi, je me dis, là où il y a une femme, en tout cas, il y a la représentation de toute une nation.
Merci bien, Madame José, pour ces éclaircissements. La question de géopolitique a été évoquée par Alain Magourou, mais il y a également quand même une autre politique qui n'est pas forcément géopolitique du gouvernement provincial. Est-ce qu'il y en a par rapport à l'accès et surtout au maintien de femmes dans des postes décisionnels dans la province du Sud Kivu. À cette question, Madame Justine, qui est conseillère du ministre en charge du genre, va essayer de nous éclaircir sur ce que fait le gouvernement, ou est-ce qu'il y a quand même une politique de promotion et de maintien de femmes à des postes décisionnels. Madame Justine.
Merci beaucoup, Madame Douce DFM, pour la parole, surtout pour l'invitation accordée au ministère provincial en charge du genre. Je vais dire par rapport à l'engagement du gouvernement provincial sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur Marcelin Tshishambo-Roya, l'engagement dans la promotion des droits des femmes, nous estimons que c'est un acquis pour la province du Sud Kivu. Tenant compte des résultats qu'a donné ma co-débattrice, Madame Espérance, où le gouvernement provincial et les femmes sont représentées à 46% de représentativité dans ce gouvernement, mais aussi le gouvernement a mis sur pied les mécanismes pour endiguer et lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre, mais aussi accroître la participation de la femme, aussi bien pour sa sécurité, pour la paix, la cohésion pacifique, et aussi accroître la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Nous savons que la participation de la femme au poste de prise de décision, c'est un processus. Un processus qui relève donc la participation de tout le monde. Le gouvernement, certes, il doit faire appliquer, faire respecter les lois, mais il y a aussi la société civile qui doit nous accompagner à faire le plaidoyer pour que le droit des femmes, les instruments juridiques qui promouvent ces droits, soient compris aussi bien dans le milieu urbain que les milieux ruraux. C'est dans ce cadre même que le gouvernement a agi avec le chef des entités territoriales décentralisées, notamment les leaders traditionnels, où il a mis en place les réseaux des leaders traditionnels pour la promotion des droits des femmes. C'est pour amener la communauté des bases au changement des comportements, et tel que Maman José l'a insinué, c'est pour que l'information passe, que ces femmes connaissent que leur droit accéder au poste, à la gestion de la chose publique n'est pas une faveur, mais c'est un droit qui leur est reconnu par tous les tests, aussi bien nationaux, régionaux qu'internationaux, auxquels la République démocratique du Congo a adhéré. Nous savons qu'il existe une coutume rétrograde qui fait assez que, tel que l'a insinué Mme Solange Luachiga, où c'est une question de volonté, mais nous savons qu'il existe une coutume rétrograde qui entraîne encore d'autres hommes à ne pas comprendre que c'est réellement un droit à laquelle la femme doit accéder et sa contribution dans la chose publique reste un droit qui lui est aliéné. Notamment, nous devons savoir ici que la province du Sud Kivu ne peut agir que selon conformément aux compétences qui lui sont requises par la constitution de la RD Congo. Merci beaucoup.
Deux autres questions dans la salle. Cette fois-ci, chers consoeurs, confrères, questions.
C'est pas le moment d'expliquer. Je m'appelle Badi Banga, journaliste à Mama Radio. Une question. Pas plus de 10% de participation des femmes au poste de prise de décision. Est-ce une remise en question du travail de mobilisation de la société civile? Et à cette allure, faut-il craindre le fiasco des femmes aux prochaines législatives et provinciales notamment?
Je suis Maître Blaise Wagbasire Kaboy, avocat et membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Bukavu et président provincial du Mouvement de Libération du Congo, MLC, du sénateur Jean-Pierre Bemba. Ne trouvez-vous pas d'abord que, en ce qui concerne la loi qui voudrait qu'il y ait beaucoup plus un nombre suffisant de femmes, l'émergence de femmes dans la gestion de la chose publique, il y a ce que nous appelons en droit la désuétude, c'est-à-dire c'est une décision qui existe, mais qui n'est pas mise en application. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, d'abord? Puisque, en ce qui concerne la gestion de la chose publique, on ne peut gérer une chose publique que par voie d'une légalité qui émane aussi de la légitimité. Qu'est-ce que vous faites, en hormis ce que vous faites ici, pour dire, est-ce que les femmes participent, est-ce qu'elles ne participent pas? Quel mécanisme avez-vous mis en place pour faire respecter la loi qui n'est pas respectée? En d'autres termes, qu'est-ce que vous voulez faire prochainement pour que cette fois, les 50-50 soient respectés? Un autre volet de cette question, ne trouvez-vous pas aussi également que, en ce qui concerne les femmes rurales spécialement, puisque on parle de femmes, ce n'est pas seulement les femmes de la ville, mais la majorité de la femme, de femmes rurales, elles sont presque analphabètes. Je dis bien la majorité. Ne trouvez-vous pas qu'il serait aussi souhaitable qui est aussi un processus, une campagne pour amener aussi des femmes à avoir une formation de base suffisante, puisque au niveau du village, puisqu'on ne peut pas devenir homme politique ou actrice politique si réellement aussi on n'a pas un niveau suffisant. Si on s'en tire à l'échantillon, au niveau provincial, si on prend les 8 territoires du Sud Kivu, vous allez retrouver peut-être que la politique n'est représentée que dans la ville de Bukavu en ce qui concerne les combats politiques. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ces questions. Je vais essayer de reconstruire les deux questions par rapport à qu'est-ce qui doit être fait pour éviter le chaos, etc. En donnant la parole à Madame Solange Lusiku. Nous sommes là puisque on est journaliste, on est un canal, d'autres prétendent même qu'on est un pouvoir. Qu'est-ce que le média peut faire effectivement pour promouvoir cette participation politique des femmes?
Douce, qu'est-ce que les médias peuvent faire pour promouvoir la participation politique de la femme? Je pense la réponse à cette question, elle cadre même avec notre vocation en tant que journaliste, parce que nous savons tous que, de par la définition même du terme du mot journaliste ou journalisme, nous avons le rôle d'informer, d'informer, d'éduquer et pourquoi pas de divertir. Alors, à partir du moment où nous avons ces quatre rôles qui font de nous ce qu'on appelle entre guillemets le quatrième pouvoir, cela signifie que nous avons une emprise un peu, comment je vais qualifier cette emprise, nous avons une emprise sur le public que nous servons. C'est nous, souvent, qui, en faisant notre travail, c'est nous qui fabriquons les hommes et les femmes politiques. Il n'existe aucun homme politique qui ne soit fabriqué par les médias. L'ambition peut être là, il y en a beaucoup qui ont des ambitions, mais qui les utilisent comme un oreiller chez eux et qui ne sont jamais connus. Mais ceux qui dévoilent leurs ambitions à travers les médias, c'est des hommes qui deviennent des grands et qui oublient parfois qu'ils ont été façonnés ainsi par les médias. Ça, c'est malheureux. Alors, par rapport à nous comme médias, qu'est-ce que nous faisons? Quel est le rôle que nous devons jouer? Je voudrais commencer d'abord par répondre quel est le rôle que nous jouons depuis que le processus démocratique en République démocratique du Congo a commencé. Si je vais autour de 2006, les élections de 2006, il y a à boire et à manger, vous êtes peut-être plus informés que moi, mais souvenez-vous que le petit échantillon des femmes qui ont eu le courage de s'élever et de se présenter aux élections, ce sont des femmes qui étaient toujours présentes sur les médias. Donc ce sont des médias qui ont encouragé ces femmes-là en leur donnant la parole pour que leurs ambitions soient un peu, comment dire, soient un peu acceptées ou mariées par les publics qui les suivaient. Il y a aussi, les médias ont aidé toutes les organisations de la société civile à tropicaliser la lutte. Parce que lorsque la lutte arrive chez nous, elle a commencé en Occident, la lutte pour promouvoir la femme, lorsqu'elle arrive chez nous, elle vient souvent avec des termes que nous ne maîtrisons pas par rapport à notre contexte. Alors, ce sont les médias qui se sont débattus pour trouver des mots justes et des termes justes pour orienter les messages qui est véhiculé par ces messages-là qui nous viennent de très loin, mais des messages qui nous permettent quand même aujourd'hui de parler genre, de parler femme, représentation de la femme. Ces mêmes médias, en tropicalisant donc la lutte et se trouvant au Sud Kivu, se sont appuyés sur les réalités du Sud Kivu pour un peu répondre à la question de nos frères qui ont parlé de nos coutumes et traditions. Vous devez reconnaître que grâce aux médias, il y a certaines coutumes et traditions qui sont aujourd'hui élaguées parce que les médias ont accordé la parole à cette femme dont la communauté ne pouvait jamais penser donner l'occasion de parler devant les hommes. Vous le savez plus que moi. Ces médias qui ont donné la parole aux femmes, qui ont des ambitions politiques, ils ont également donner la parole aux femmes qui n'avaient pas des ambitions politiques et qui les ont maintenant aujourd'hui. C'est à partir du moment où on suit, je vais citer Madame Zita de Rez Mémoire, C'est à tout moment que les femmes suivaient Madame Zita sur, à la radio, que tout le monde se disait, mais elle parlait bien, elle est politique, mais c'est quand même une femme, donc moi aussi je peux aller en politique. Donc il y a des exemples éloquents, il y a des exemples positifs des femmes qui ont été, je dirais, des exemples que nos médias ont brandi le plus souvent lorsqu'il fallait parler de la femme, lorsqu'il s'agissait des débats. Vous savez que nos coutumes nous ont un peu gardé dans la fabrication de la solitude pour que la femme soit toujours solitude et dans la solitude et qu'elle soit toujours solitaire et qu'elle ne parle pas souvent. Mais grâce à ces femmes politiques dont le public, je parle ici de l'éther, c'est un peu accrue à un certain moment grâce aux médias. Ce sont ces femmes-là qui ont un peu franchi les caps par rapport aux restrictions de nos coutumes et traditions. Ces mêmes médias, vous les faites chaque jour, vous organisez des débats, permettant aux femmes aussi de présenter leurs programmes politiques. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui évoluent sans programme politique, sans projet de société. Ils sont nombreux, mais vous ne verrez jamais une seule femme politique qui se présente aux élections sans un projet de société, sans un programme sur lequel elle va travailler. Et c'est en suivant les médias que ces femmes-là ont compris. J'ai dit et je vous remercie.
Il y avait une question par rapport à qu'est-ce que vous faites. Préparez encore deux autres questions, puisqu'on n'a que 10 minutes restantes encore. Avant vos questions, je vais donner la parole à Madame Espérance Mawanzo pour dire qu'est-ce qui peut être fait effectivement, comme beaucoup de personnes s'interrogent, pour avoir quand même une participation qualitative et quantitative des femmes.
Okay, merci Douce. Qu'est-ce que nous faisons? Mais je pense qu'il y a 20 ans, 30 ans, on ne parlait pas de ce genre de questions. Ça a commencé à l'Occident, comme Solange a dit tout à l'heure, mais ça a pris beaucoup d'années pour que les femmes, même aujourd'hui aussi à l'Occident, je crois qu'il y a aussi dans d'autres pays où ce n'est pas encore 50-50. Nous avons commencé, il y a des aînés qui ont commencé le mouvement avec nous, et nous continuons. Le problème, c'est que ce que j'apprécie dans ces combats, parce qu'il y a déjà prise de conscience. On ne sait pas voir encore le nombre de femmes sur le plan quantitatif, mais les réactions avec l'activité comme ceci, tout le monde va rentrer chez soi à la maison, comprendre que non, il y a quelque chose qui est dans la société. Qu'est-ce que nous faisons, nous, de la société civile? Il y a les plaidoyers que nous faisons. S'il y a eu la loi sur la Constitution, s'il y a eu l'article 14 dans la Constitution, si aujourd'hui Solange Loachiga parlait du mouvement Rien sans les femmes, il y a les plaidoyers que nous menons vers les autorités. Donc il y a quand même quelque chose que nous faisons, chaque organisation, chaque personne à son niveau. Mais ce n'est pas qu'on est à un niveau statu quo comme ça, comme on ne fait rien. Donc nous faisons quelque chose et nous continuons aussi à le faire. Et nous allons continuer, sinon on ne termine pas. Nos filles, nos garçons vont continuer les combats. C'est un combat, c'est un processus qui va continuer.
Voilà. Merci beaucoup. Avant de prendre vos questions, je vais vous inviter à suivre d'abord quelques réactions des habitants de Bukavu, près de qui également nous avons tendu le micro et qui donnent leur appréciation de la participation politique de la participation des femmes dans les instances décisionnelles.
Par rapport à la participation de la femme, particulièrement dans notre province, elle semble être un peu représentée, mais le taux reste toujours faible et c'est peut-être dû au désengagement de la femme et même qui ne savent pas trop s'engager, mais également ce qu'on a toujours de crier, cette masculinité hégémonique. On ne facilite pas vraiment la femme. Il y a une mauvaise volonté politique, d'abord des hommes politiques qui ne laissent pas la place ou la porte ouverte aux femmes afin qu'elles s'expriment et qu'elles participent aussi à ces instances de prise de décision. Pour changer, il faut d'abord, j'appelle particulièrement les femmes à s'engager personnellement, parce que aussi la méritocratie, c'est pas question que tu es femme et qu'on te facilite. Non, il faut que tu mérites, il faut que tu t'engages.
Bon, moi je dirais qu'il y a des avancées parce que ça fait une dizaine d'années que les femmes sont en train de se sensibiliser mutuellement, sont en train de faire des plaidoyers pour que la femme soit considérée dans les instances de prise de décision. Si vous avez avez bien suivi le processus. Dans le gouvernement de Chibanoza, il n'y avait qu'une seule femme. Dans le gouvernement de Louis Léonce Mouderoua, une seule femme, alors qu'on faisait des plaidoyers. Mais avec le gouverneur Tshishambo, il a pris conscience de ces plaidoyers que faisaient les femmes. Il est quand même arrivé à nommer 6 femmes sur 13 membres du gouvernement provincial. Et nous, on ne se limite pas par là, puisqu'on doit descendre même dans les divisions. Il y a une cinquantaine de divisions, mais si vous voyez les divisions qui sont chapeautées par des femmes, il n'y a que 3.
Si la femme ne travaille pas dans une société moderne, elle n'est pas prise avec une considération, elle n'est pas considérée dans la société, elle est considérée comme quelque chose qui est inférieur. Donc la femme doit travailler pour qu'elle ait de la valeur.
Moi je suis la seule fille dans notre auditoire, la L1 histoire. Il y a les moments que les garçons se décident contre moi, mais moi aussi je prends ma décision. Et quand je prends cette décision, en tout cas je ne recule pas derrière. Et ça aussi, ça me permet aussi d'avoir au moins l'accès, parler aux garçons que non, la femme aussi a un mot à dire dans la société. La femme aussi, c'est une personne comme tant d'autres. D'ailleurs, la décision d'une femme, c'est une bonne décision parce que la femme ne recule pas derrière. Quand une femme a parlé, c'est tout. Parce qu'au moins, ça nous permet aussi de bien gérer aussi la société.
Voilà, c'est quelques réactions de la ville de Bukavu qui reflètent en quelque sorte les pensées les plus profondes du commun des mortels de Bukavu. Des contributions en tout cas, pas des questions, mais plutôt des contributions, quelques-unes, des engagements, des propositions également pour améliorer la situation, puisque telle qu'on l'a vue, elle n'est pas bonne.
Merci beaucoup pour la parole. Je suis Sifana Megabe, suis journaliste à la radio Neno Lausima ici à Bukavu. J'ai suivi avec grande attention tout ce qu'on a parlé concernant la participation des femmes au processus décisionnel, surtout ici dans notre pays. Et moi, j'ai pensé qu'il y a encore un grand travail à faire. J'ai proposé qu'il y ait des séances de sensibilisation pour que la plupart des mamans, des femmes qui n'ont pas encore intériorisé cette question, qu'elles puissent la faire sienne. Ainsi, si nous toutes nous prenons cette question, nous disons que la politique, je dois entrer dans la politique et que je dois comprendre l'intérêt qu'il y a dedans, je sais bien que la femme aura aussi un poste dans la mesure où la décision sera aussi une occasion qu'on aurait offerte à la femme. Je dis, je vous remercie.
Je suis Bertin Ilunga, je suis le responsable provincial du Parti Congolais pour le Progrès, le PCP. Les combats, les processus décisionnels, là vous ciblez le secteur politique. Or nous sommes dans un processus démocratique. Pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Les tableaux que vous avez donnés là-bas, c'est un tableau noir. Le contexte n'est pas favorable pour vous. Donc il faut aller aux élections. Mais les quelques femmes qui se jettent dans l'eau, parce que la plupart des grandes dames que nous avons dans la province, comme vous êtes là-bas, sont dans les ONG. Les quelques femmes qui se jettent dans l'eau dans la politique, comme Madame José, est-ce que vous ne trouvez pas normal de confectionner un projet pour financer les campagnes de ces femmes qui se jettent dans l'eau? Au lieu d'organiser plusieurs ateliers et séminaires, tout cet argent pourrait être ramassé et financer les quelques femmes candidates que nous avons.
Monsieur Prosper, bienvenue.
Merci pour la parole. Je suis baptisé Prosper Amouli Birali. Ici à Bukavu, je suis le chercheur principal de l'ONG Action pour la paix et la concorde, APC. Moi, j'aimerais qu'il y ait une cartographie des nouvelles initiatives qui vont faire leur chou gras sur la marchandisation de ces combats. Des gens qui vont demander de l'argent et qui sont déjà en train de le faire, je crois qu'il faudrait une bonne cartographie pour qu'on sache à qui on s'attaque, pour qu'on sache qui est en train de profiter de ces combats pour se faire de l'argent et non pas pour aider les femmes. Je crois que ce serait déjà un point de départ pour que nous puissions voir ce qu'il faut faire effectivement pour contrer cette velléité de vouloir profiter d'un combat noble dans un sens qui n'est pas favorable à la femme. Mais vous avez déjà l'identification quand je parle de cartographie. Et ensuite, il y a la compréhension. Si on comprend déjà le phénomène, si on le rend intelligible, c'est déjà une bonne contribution. C'est à ce moment-là qu'on peut voir quelles sont les pistes de travail que l'on peut dégager pour pouvoir se lancer là-dedans. La deuxième proposition était un peu différente de ce que l'autre a dit, de donner de l'argent, de distribuer de l'argent aux femmes candidates pour site. C'est vrai que en 2011, je l'ai vu de mes propres yeux, les gens ne sont pas passés à l'acte, c'est-à-dire mettre le bulletin dans l'urne en faveur de quelqu'un en fonction de son programme politique ou de son projet de société. C'était en fonction des Makayabo, en fonction des t-shirts. C'est ça qui a été déterminant. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. C'est vrai. Mais moi, je pense que, en termes de capacité, c'est plutôt cette compétence-là à identifier les opportunités pour financer la campagne. Je crois que c'est ça qui serait plus payant.
Merci beaucoup. Honneur aux dames. Colette, bienvenue.
Merci. C'est Colette Salima. Je suis rédactrice en chef à Mama Radio. On a comme l'impression qu'au Sud Kivu, particulièrement, il n'y a pas assez de femmes dans les partis politiques. Parce que nous qui animons des émissions débat, nous qui avons des émissions dans nos médias, nous nous rendons compte que lorsque nous avons besoin de choisir une dame qui peut intervenir, on a des difficultés à définir qui exactement participe dans une émission. Et là, on se rend carrément compte que dans les partis politiques, il y a des femmes qui... il n'y a vraiment pas des femmes. Et il n'y a que quelques femmes qui reviennent, qui passent régulièrement dans nos médias. Et pour moi, ce que je voudrais demander, c'est qu'on mène des sensibilisations ou des campagnes pour amener d'autres femmes à adhérer dans les partis politiques. Parce que nos partis politiques sont très vides. Une fois elles seront dans les partis politiques, ça pourra aider à avancer les choses. Merci.
Merci. Oui, Naomi.
En fait, juste un élément supplémentaire, c'est que, juste pour compléter Colette, c'est qu'il faut mener des plaidoyers également pour que les femmes adhèrent aussi comme membres des associations de la société civile aussi. Ne l'oublions pas. Donc, il n'y a pas que les partis politiques. La femme peut être aussi active dans la société civile et faire entendre sa voix pour que son opinion passe également.
Je serai très bref. C'est un seul mot. Je suis Emmanuel. Je travaille avec NCA, Norwegian Church Aid. Ce que je voulais formuler comme recommandation, c'est que c'est vrai que les hommes ont été longtemps égoïstes. Il y en a qui ont pris conscience et qui ont commencé à changer. Ce que je recommande, c'est de pouvoir identifier les alliés dans votre combat, les alliés hommes, et de ne pas mener un combat comme si c'était la confrontation, ériger l'homme à un ennemi, à un adversaire, mais plutôt à un allié qui comprend bien le bien fondé. S'il comprend, il va adhérer. Si vous le prenez comme ennemi adversaire, il va résister. Merci.
Je vais redonner la parole à nos panélistes, chacune maximum une minute, pour nous dire en dernier lieu comment on peut arriver à une participation qualitative et quantitative des femmes dans le processus décisionnel public. Il y a Noémie qui a proposé, pas seulement dans les partis politiques, mais même dans des sociétés civiles actives, influentes et aussi démocratiques. Commence par Solange.
Les stratégies, il n'y a pas de nouvelles. Nous devons continuer à sensibiliser, à renforcer les capacités, à mener les plaidoyers et nous mobiliser en masse et surtout souligner la question que la participation des femmes, c'est une question des droits, de sécurité et de développement durable. Pour terminer, j'espère que dans 20 ans, on aura des décideurs politiques et jeunes qui ont intégré et intériorisé tous les travaux des organisations de la société civile, des médias, et c'est là où on verra une volonté politique manifeste. Merci.
Merci beaucoup, Madame Solange. Docteur Justine.
Je pense pour rendre plus effective la participation qualitative et quantitative de la femme dans la gestion de la chose publique, nous devons d'abord commencer par la base, notamment l'éducation de nos enfants, aussi bien au niveau dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Éduquer et encourager les enfants à accéder à l'instruction de qualité et les accompagner à terminer tous les cycles, aussi bien les cycles primaires, secondaires que universitaires. Et aussi, nous devons accompagner le gouvernement dans la lutte contre les mariages des enfants qui freinent l'épanouissement de la femme, qui freinent sa contribution dans le développement durable de son milieu, mais aussi nous devons lutter, continuer à sensibiliser, surtout les milieux ruraux, les femmes du milieu reculé, qui ne connaissent pas toutes ces informations que nous, nous sommes censés posséder et qu'eux ne connaissent pas que c'est leur droit. Donc la participation de la femme reste un droit, ne perdons pas espoir, restons optimistes. Merci.
Merci au co-docteur, Madame José.
Moi, je suis politique, je veux plus parler politique. Nous sommes devant Internews FM. Je pense que nous allons vous demander d'accompagner les femmes à affronter les obstacles qui freinent les femmes à faire la politique. Il faut vraiment accompagner ces femmes, accompagner les femmes pour qu'ils comprennent le bien fondé d'adhérer dans un parti politique. En plus de cela, nous avons remarqué une chose. Quand il s'agit des négociations dans notre pays ou même dans des grands forums internationaux, il y a une faible participation de la femme. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, même quand vous voyez le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quelle est cette représentation de la femme?
Merci, Madame Solange Rousségou.
Merci beaucoup encore une fois pour la parole, tout en rappelant que selon ce que nous, nous apprenons chez les autres, les meilleurs acteurs politiques, on les puise souvent dans la société civile. Les meilleurs, ils sont dans la société civile, cela veut dire travaillant au sein de la société civile, étant actifs sur le terrain, dans la société civile, on fait corps avec les besoins de la base. Chaque jour, on rencontre les enfants, jeunes, filles et garçons, on rencontre les hommes, femmes ayant étudié et femmes n'ayant pas étudié, et ça permet à quelqu'un de peaufiner son programme de société, son projet de société, et ça permet à un acteur politique d'avoir de l'emprise sur les orientations de son parti politique pour montrer que voici ce que la population voudrait que ce soit, voici ce qui représente les desiderata de la population, et ça oriente directement l'action soit du gouvernement, soit des acteurs politiques vers les peuples. Et ça permet à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs politiques de mener des actions tout à fait louables.
Merci bien, Madame Solange. Pour finir, Madame Espérance Mawanzo.
Je voulais plus appuyer ce que Dr Justine a dit, de commencer vraiment à la base. Et à la base, moi, je vois, il y a l'école, mais j'aimerais qu'on commence au niveau de nos familles, de nos maisons. L'éducation que nous donnons à une fille et à un garçon, c'est ça la base. Tout part de là. Nous éduquons les filles différemment. Souvent, les filles sont éduquées pour servir l'autre. Et cette fille-là, on va la chercher plus haut pour dire, elle est où? On ne la voit pas comme élue, comme... dirigeante d'un parti politique, mais au moment où, au niveau de nos maisons, déjà, l'éducation est séparée. C'est là que j'aimerais vraiment que nous commençons par là.
Et je vais inviter Patient, cette fois, pour le mot de clôture.
Merci infiniment. Mes remerciements et remerciements d'Internews et l'équipe de Vox Congo vont directement vers vous, les panélistes qui avez accepté de partager avec nous votre expérience, votre savoir et ainsi que toutes ces recommandations. Merci infiniment également à vous tous qui êtes présents ici. Merci à ceux-là qui ont posé des questions. Toutes vos recommandations étaient vraiment intéressantes. Nous sommes très très heureux de compter sur vous chaque fois qu'on organise des activités comme celle-ci. Juste pour terminer, je voudrais dire que vous pouvez continuer à suivre Vox Congo tous les jours sur Mama Radio, mais également sur la radio Maendeleo. Merci de votre confiance. Nous serons toujours heureux de recevoir vos critiques, vos remarques pour enrichir davantage ce programme. Et ici, même à Bukavu, on aura trois autres éditions de café de presse et on aura à exploiter d'autres thèmes les uns aussi intéressants que les autres. Je remercie également le bureau Internews d'ici au sud Kivu, représenté par Broye Munganga ainsi que toute une équipe. Merci à vous, on se retrouve très très bientôt.
Je vous remercie sincèrement et comme disait Patient, à très bientôt.
Nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.